Aujourd'hui, à Vue d'ailleurs, nous poursuivons le témoignage de Christine Ducoudray, responsable de l'Afrique francophone et du Soudan pour l'aide à l'Église en détresse, qui nous parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo.
Le Congo, la RD Congo, a le malheur d'être vraiment riche en ressources, disons, naturelles. Et je pense que beaucoup de personnes, disons, les puissances étrangères qui aimeraient avoir la mainmise sur l'Afrique, profitent donc de la faiblesse donc de cette mégestion au niveau du pays pour toujours nous laisser un peu à la merci de ces velléités dans d'autres étrangères, quoi.
Salut Robert.
Bonjour Denis.
Évidemment, ce n'est pas la voix de Christine, mais celle de Mgr Julien Anne Davo. Il est évêque congolais que vous avez rencontré il y a environ un an. C'est un extrait qu'on vient d'entendre. Tel que mentionné la semaine dernière, nous allons poursuivre aujourd'hui notre survol de certains pays africains qui connaissent des situations difficiles, voire préoccupantes. C'est le cas notamment de la République démocratique du Congo, l'ancien Congo belge. Enfin, il y a deux Congos, il y en a un autre, la République du Congo, qui est une ancienne colonie française. Alors, la situation en RDC, comme on l'appelle également, est extrêmement complexe. Elle est aux prises, en tout cas, le pays est aux prises avec d'incessants conflits pour diverses raisons, notamment les richesses naturelles dont vient de nous parler Mgr Davo.
Oui, Christine revient tout juste à l'automne dernier là, de la République démocratique du Congo. Mais avant de passer à Christine, j'ai aussi interviewé le père Serge Saint-Arnaud, qui est missionnaire au Zambie. Le rapport, c'est qu'il a vécu pendant 10 ans au Congo. Je lui ai demandé de nous partager une réflexion sur la situation actuelle au Congo, compte tenu de toute son expérience.
J'ai rencontré dernièrement ici, à Lusaka, des membres de la communauté francophone dont plusieurs Congolais font partie. Alors, j'ai passé toute une journée avec eux. Et on a réfléchi ensemble autour de cette question-là. Et moi, mon impression, connaissant un peu l'histoire du Congo, c'est qu'il y a comme une forme d'amnésie générale ou collective. Imaginez le régime de Mobutu Sese Seko, ce qu'on appelle le mobutisme, s'est imposé pendant au moins 30 ans, un peu plus de 30 années, dans un pays dont les richesses sont immenses, dont la richesse culturelle est immense également, mais un pays qui a été dévasté par la dictature du mobutisme. Alors, au moment du renversement du régime, en 1996, rapidement, les Congolais ont tout effacé, ont tout écarté ce qui appartenait au mobutisme. Le Zaïre est redevenu le Congo, le drapeau est redevenu le drapeau congolais, l'hymne national a été de nouveau remplacé qui a été repris, celui de 1960, c'est comme si on avait éclipsé 30 années de vie collective à cause de l'oppression. Mais cela a une conséquence très, très négative. C'est comme si on voulait balayer du revers de la main une expérience de vie qui devrait, en fait, nous servir aujourd'hui. Alors, le drame, c'est qu'à cause de la douleur profonde du peuple congolais suite au mobutisme, eh bien, les Congolais ont beaucoup de difficultés à lire l'histoire et à tirer profit des erreurs du passé. Alors, c'est un défi immense.
– Juste brièvement, Robert, précisons où se trouve la République démocratique du Congo, qui s'est appelée un temps le Zaïre de 1971 à 1997.
Exact.
Donc, la RDC est située à la frontière sud-est de la République centrafricaine, dont nous a parlé Christine la semaine dernière. Mais poursuivons avec le Père Saint-Arnaud.
Bon, le Père Saint-Arnaud a choisi un angle historique, si je peux dire, pour nous parler, et j'emploie son expression, de la profondeur de la douleur du peuple congolais. Et si les médias se sont un peu limités dans les derniers temps, c'est peut-être un peu par lassitude là, pour en parler, mais pourtant, le Congo, après la Seconde Guerre mondiale, a le triste record d'avoir 5 millions de morts. C'est quand même pas rien. Alors, j'ai demandé à Christine, après ce rappel historique du Père Saint-Arnoux, de nous décrire un peu la situation, mais en nous parlant de la neuvaine qu'a organisée l'aide à l'Église en détresse.
Tout ça est né au moment d'un récent voyage à cheval sur octobre-novembre dernier. Nous avons passé 3 semaines à l'est du Congo, visitant les diocèses de Bukavu, Goma, Kindu, Uvira. Et bon, c'est un voyage que je réalise chaque année, mais là j'étais vraiment effrayée de voir l'horreur de la situation, de nouveau ces camps de déplacés, ce contenu, et là on peut en parler largement, de ce renouveau de conflits, de guerres, de combats, de massacres, de viols, et donc, au vu de cela, nous étions là à ce moment-là avec l'évêque de Goma, Monseigneur Kaboy, et nous lui avons dit, certes, on peut vous donner, et on l'a fait bien évidemment, un soutien pour venir en aide immédiate, une aide d'urgence qui serait gérée par les congrégations religieuses. Mais ce que nous vous proposons d'abord, ça serait une neuvaine au Prince de la Paix du 16 au 24 décembre, afin, avec toutes les communautés contemplatives avec lesquelles nous sommes en lien dans le monde, avec tous les bienfaiteurs de nos 17 bureaux nationaux, avec tout le Congo-Kinshasa, mais aussi tous les évêques qui l'accepteront de le faire connaître, nous puissions réellement prier pour que la paix advienne.
Pouvez-vous nous décrire l'ampleur de la situation?
Ce que le monde ne sait pas suffisamment clairement, c'est que la République démocratique du Congo, et particulièrement l'Est, c'est 5 millions et plus de morts, de victimes, depuis 1996. Et là, le monde n'en sait rien. C'est la plus grosse hécatombe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Saint-Père l'a évoqué 3 fois. Vers la fin novembre et décembre, il a évoqué la situation très, très préoccupante de l'Est du Congo, et ce qui a redonné cœur à cette population que nous connaissons bien, et les évêques, je voudrais faire cette parenthèse, par exemple, pour dire que l'archevêque de Bukavu, lui-même, dans la tourmente, ses deux prédécesseurs ont également été sont morts de mort violente. Eh bien, il vient de recevoir le prix des droits de l'homme pour la paix par le diocèse de Weimar en Allemagne. Donc, la situation est tragique. Pourquoi ? Parce que c'est un énième mouvement de rebelles. On est toujours le rebelle de quelqu'un en Afrique, mais là, on sait très bien que ce mouvement M23 est particulièrement soutenu par le Rwanda et par l'Ouganda, et on ne peut que s'étonner que les pourparlers de paix qui ont commencé déjà il y a quelque temps et qui n'évoluent pas beaucoup se tiennent précisément en Ouganda à Kampala, dans un pays qui est lui-même considéré par l'ONU et par le Conseil de sécurité comme étant un soutien à la rébellion et à l'occupation et aux massacres qui ont lieu depuis maintenant mars-avril de l'année dernière.
Monseigneur Julien Andavo, un évêque congolais, m'a déjà dit dans une entrevue l'année dernière que le Congo était victime de ses grandes richesses. Comment diriez-vous que s'exprime ce paradoxe?
On est là dans une situation de mensonge réel, où on ne dit pas suffisamment fort que le Rwanda est à l'origine de cette nouvelle tragédie. Et pour quelle raison ? Et ça, c'est vrai comme partout, c'est à cause des richesses colossales que détient l'Est de ce pays et qui suscite évidemment la convoitise de tous les pays du monde, de toutes les grandes puissances du monde qui ont besoin de cuivre, de coltan, d'or, de diamants, d'uranium et de pétrole. Et quand un prêtre, alors que nous traversons la côte Est, nous dit « il semblerait qu'on ait trouvé du pétrole à cet endroit-là », eh bien, loin de se réjouir, je peux vous dire, c'est une tragédie totale de le savoir. Car, on le sait très bien, il n'y a pas de guerre et de mouvement de conflit au Burkina Faso, car il ne possède pas de richesses à proprement parler, mais beaucoup de richesses humaines, mais je parle de richesses minières. Et c'est la raison pour laquelle ce pays, qui est la République démocratique du Congo, qui est un véritable scandale géologique, attire toutes les convoitises. Et le cardinal Monsengo, Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa, disait « Comment se fait-il que notre pays soit incapable, comme d'autres pays, de vendre proprement et clairement ses richesses pour en recevoir d'autres dont nous avons besoin ? Et pourquoi faut-il que nous soyons pillés, exterminés, et comme nous le savons malheureusement maintenant, avec une arme qui est tragique, le viol, qui est devenu une sorte de sport national. Mais à travers ce mot qui fait frémir, ce sont des femmes qui sont violées avec une telle cruauté que jamais plus elles ne porteront un enfant. Cela signifie la disparition d'une population à l'est du Congo et une sorte de no man's land qui laisse la porte ouverte à d'autres populations.
D'où l'appellation de moyen de... C'est un moyen de c'est une stratégie de guerre.
Mais totalement. C'est une stratégie de guerre et tout ça est très bien planifié, très bien organisé. Et ça s'appelle aussi la balkanisation du pays ou le fédéralisme. En tout cas, il y a des appétits puissants à l'est de cet immense pays pour que les Congolais n'en soient pas les seuls détenteurs.
Vous écoutez Vue d'ailleurs, une production de l'aide à l'Église en détresse. Ici Denis Miron en compagnie de Robert Lalonde. Rappelons que notre invitée aujourd'hui, Christine Ducoudray, elle est responsable de l'Afrique francophone et du Soudan pour l'aide à l'Église en détresse. Robert, Christine a mentionné précédemment cette neuvaine qui s'est tenue juste avant Noël, à laquelle a participé l'ensemble des bureaux nationaux de l'aide à l'Église en détresse. Est-ce que le bureau du Canada, ici à Montréal, y a participé?
Oui, en effet, nous avions un texte commun, les 17 pays, que nous devions gérer à notre façon et distribuer selon l'importance que nous accordions à tel ou tel média. Alors, nous l'avons effectivement tous les jours du 16 décembre jusqu'au 24 décembre, jour après jour, pendant les 9 jours, mis une prière sur Facebook avec un court texte de mise en situation sur Facebook. Nous avons aussi fait le lien avec tous nos bienfaiteurs pour qu'ils aient le texte en question et nous avons aussi, bien sûr, émis un communiqué de presse dans les médias pour en faire la promotion. C'est une façon pour nous de mettre en pratique notre slogan qui est « Prier, informer et agir ». Alors, une neuvaine, évidemment, c'est le prier. Nous avons fait le geste d'informer tous ceux qui pouvaient le faire. Et pour agir, la réflexion que ça amène que de faire cette neuvaine, ça amène à vouloir faire des actions. Et j'ai demandé à Christine Ducoudray de nous parler de certaines des actions qu'il était possible de faire pour contribuer à cette situation.
Alors, bien évidemment, nous avons ponctuellement ces aides d'urgence qui permettent à l'Église d'être présente dans les situations les plus pathétiques. Ce que nous pouvons donner est une goutte d'eau par rapport à ce que donnent les grands organismes d'aide. Mais derrière cela, sur le plus long terme, ce qui nous est demandé, c'est d'aider les évêques à former toujours mieux leurs futurs prêtres, leurs prêtres, donner des aides d'existence aux religieuses qui sont au milieu de la population, mais aussi les laïcs, afin qu'ils se développent dans les cœurs et dans les esprits une culture de paix. Et cette année de la foi est une invitation partout, chez nous aussi bien évidemment, mais aussi dans ces pays-là, à découvrir le fond de notre catéchisme et notre credo. Notre credo, cette civilisation de l'amour, cette civilisation de la justice et de la paix qui commence par la vérité. Vérité, justice et paix, et le Saint-Père, dans son message, le souligne avec forte attention. Il n'y a pas de justice et de paix sans la vérité. Et c'est ce travail-là qui nous est demandé. Nous serons par exemple sollicités à Bukavu, à la frontière est du Congo. Nous sommes sollicités pour le futur centre Justice et Paix, doctrine sociale de l'Église, qui a beaucoup à apporter et qui sera là pour former des personnes capables de redonner cette formation sur ce qu'est l'avenir d'un pays fondé sur l'attention et le respect à la personne. Et là, c'est l'appel est pour nous tous, également dans nos pays, quand on en voit les dérives chez nous et là-bas, c'est parce que la personne n'est pas centrale. Et je crois que dans cette année de la foi, nous avons à remettre la personne au cœur de nos soucis et de notre préoccupation à travers le credo que nous offre le Seigneur en approfondissement.
Robert, la République démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, donc un vaste pays, et l'un des plus populeux d'ailleurs, près de 74 millions d'habitants d'après les données de 2012. Or, Christine est allée récemment, enfin il y a quelques mois, en RDC.
Christine Ducoudray va en République démocratique du Congo chaque année. La dernière fois qu'elle y est allée, c'est à la mi automne environ, et elle est revenue, comme elle l'a dit, complètement dépassée.
Par les événements.
Elle était accompagnée de Regina, qui est la directrice générale de l'aide à l'Église en détresse. Bon, voilà. Mais je lui ai demandé cette année quels étaient les projets qu'elle devait... Je lui ai demandé cette année dans quel pays elle devait se diriger pour les missions qu'elle a à accomplir. Écoutons-la.
Quatre projets de voyage. Le tout prochain, c'est Madagascar, où la situation aussi est assez délicate, politiquement parlant. Il y a une immense pauvreté. Là aussi, l'Église se bat pour être aux côtés de personnes en grande misère, en grande difficulté. Donc, j'envisage d'y aller comme premier voyage. Le second sera à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'occasion de la plénière de toutes les conférences épiscopales du Congo. Et puis, il y aura le Sud-Soudan, qui est une sorte de voyage annuel pour être à l'écoute des grands besoins de nombreux diocèses en ce nouveau pays qui se débat dans tant de difficultés. Et enfin, il y aura la plénière de la Fédération africaine de l'action familiale à l'île Maurice, parce que il nous paraît, et nous voulons faire écho à cette sollicitation perpétuelle du Saint-Père, nous voulons faire écho, mais sans relâche, à l'urgence de proposer au monde la vie et la famille. La famille fondée, la famille traditionnelle, avec un homme, une femme et des enfants, pour que le monde aille mieux. Et donc l'Afrique est très demandeuse de ces projets en faveur de la vie et de la famille. Et c'est pour nous un grand désir d'y répondre à la mesure de nos moyens, et cela me donne l'occasion de remercier infiniment tous nos bienfaiteurs, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons soutenir de tels projets.
On le voit, Robert, le continent africain est un continent en pleine effervescence. Il y a un an, à peine, il y a eu le printemps arabe qui a touché surtout le nord de l'Afrique, donc des pays arabes. Mais on le voit en Centrafrique également, plusieurs pays connaissent des troubles. Et bon, on se demande, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que le chemin vers la démocratie est à portée de main?
Bon, dans la réflexion que nous a partagée le Père Saint-Arnaud en début d'émission, il nous laisse croire que le peuple congolais est d'une nature tellement combattante, tellement forte, qu'il y a lieu d'avoir de l'espoir.
Connaissant le peuple congolais, connaissant l'endurance de ce peuple-là, sachant que bien peu d'autres peuples pourraient endurer autant de difficultés que le peuple congolais, et malgré tout survivre et continuer à progresser, moi j'ai la conviction que le jour où les Congolais vont se doter d'institutions politiques, économiques, et culturel adapté à la réalité du peuple congolais, le Congo va devenir un exemple à suivre pour le reste du continent.
Alors, le continent africain qui a fait l'objet de deux émissions, donc au cours des deux dernières semaines, on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans d'autres pays également qui connaissent des situations difficiles. À quoi faut-il s'attendre la semaine prochaine?
Bon, la semaine prochaine, demain, Sa Sainteté Benoît XVI fera un message pour la Journée mondiale des communications sociales. Et pour en parler, je serai accompagné de François Gloutny, qui est un spécialiste des médias sociaux, qui donne des formations et qui se connaît beaucoup, et un spécialiste, mais plus particulièrement travaillant pour l'Église. Alors, ce sera notre invité de la semaine prochaine.
Bien, merci beaucoup, Robert. Alors, notre invité à nouveau cette semaine était Christine Ducoudray, responsable de l'Afrique francophone et du Soudan pour l'aide à l'Église en détresse. Et on a également entendu brièvement le Père Serge Saint-Arnaud. Il est secrétaire de la province d'Afrique australe des missionnaires d'Afrique, dont le bureau central est situé à Lusaka, capitale de la Zambie. Voilà qui complète notre émission pour aujourd'hui. Nous espérons que le sujet a su vous intéresser. La semaine prochaine, ne manquez pas notre émission. Nous recevrons François Gloutney. Il est un expert en médias sociaux pour l'Église. À la production technique, c'était Guy Lafrance. Ici Denis Miron, en compagnie de Robert Lalonde, qui vous souhaite une excellente semaine à l'antenne de Radio Ville-Marie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Vue d'ailleurs.